Bonjour, merci beaucoup d'être à nos côtés. Et donc, on va, vous avez commencé à nous en parler, professeur, des biomarqueurs. Et donc, nous allons poursuivre avec vous, docteur.
Voilà, donc effectivement, donc Olivier Bouzige, moi je suis maître de conférence, praticien hospitalier. Je travaille donc dans un laboratoire de recherche CNRS, le même que celui du professeur Blanc, et également donc, au laboratoire de biochimie et de biologie moléculaire à l'hôpital de Haute-Pierre. Et donc la question à laquelle on m'a demandé de répondre, c'est: peut-on voir les lésions de la maladie d'Alzheimer chez les patients? Alors, si je devais répondre succinctement, je dirais oui, mais de manière indirecte. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est: quelles sont ces lésions de la maladie d'Alzheimer et comment fait-on pour les voir? Alors, normalement, pour voir ces lésions, il faudrait, comme c'est des lésions cérébrales, il faudrait prélever le cerveau et le découper pour accéder aux différentes structures cérébrales pour voir ces lésions. Et c'est justement ce qui a fait à l'époque Aloïs Alzheimer. Donc je vais faire un petit peu d'historique de la maladie. Donc Aloïs Alzheimer était à la fois neuropathologiste et psychiatre. Et en tant que psychiatre, donc il a suivi une patiente qui avait des pertes de mémoire, des troubles du langage, une désorientation, des hallucinations, des troubles du comportement. Il a décrit la symptomatologie de la maladie d'Alzheimer et au décès de la patiente, comme il était également neuropathologiste, il a prélevé son cerveau et il a fait un marquage. Alors à l'époque c'était de l'imprégnation argentique et il a dessiné en fait ce qu'il voyait donc dans le cerveau de la patiente. Et donc il a donc je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je suis le pointeur. Ah non, je suis pas dans le bon sens. Voilà. Vous voyez, il y a des plaques ici qui sont en fait des plaques amyloïdes. On l'a su a posteriori, bien évidemment. Et il a dessiné également d'autres types d'agrégats qui sont, on voit, ça n'a pas tout à fait la même forme. On le voit aussi également ici, qui sont des dégénérescences neurofibrillaires. Il y a deux types d'agrégats qui sont visibles dans le cerveau de la patiente. Hein, donc Aloïs Alzheimer a décrit à la fois la symptomatologie et les lésions qui étaient présentes dans le cerveau de la patiente. Donc pour résumer, dans la maladie d'Alzheimer, on a à la fois des neurodégénérescences, qui sont des neurodégénérescences progressives. Vous voyez donc ici un cerveau sain, et puis au fur et à mesure de la pathologie, on va avoir des neurodégénérescences importantes, qui sont en partie dues à deux types d'agrégations, qui sont donc les plaques amyloïdes, qui sont dues à l'agrégation de peptides amyloïdes. Je vais revenir. On parle d'amyloïdopathie, donc de pathologie amyloïde. Et également, donc on voit hein, le marquage, hein, ça ressemble énormément à ce que Aloïs Alzheimer avait dessiné ici. Et donc les dégénérescences neurofibrillaires, donc qu'on voit là, et qui correspondent donc au dessin, donc ici. Ça, c'est des agrégats de protéines tau. Et on parle de tauopathie, donc de pathologie liée à la protéine tau. Alors, je vais essayer de détailler sans trop rentrer dans les détails pour que vous compreniez en fait comment elle se développe, comment ces agrégats se développent. Donc, tout d'abord, on va commencer par la protéine tau. Donc, vous voyez cette protéine tau ici en rouge qui est accrochée à un espèce de tube ici, ce qu'on appelle les microtubules. Et alors ces microtubules, à quoi servent-ils? Eh bien, ici vous avez un neurone, et les microtubules, en fait, servent un petit peu de squelette de l'axone, hein, qui est le bras, qui donc entre le corps cellulaire du neurone et ici la synapse, les synapses. Et donc, ces microtubules servent également au transport, vont intervenir dans le transport des vésicules. Du neurone. Donc il y a par exemple des vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs qui vont être amenés jusqu'à la synapse. Où donc ces neurotransmetteurs vont être libérés dans la fente synaptique pour communiquer avec les autres neurones. Donc ces microtubules ont un rôle important. Et cette protéine Tau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle stabilise le microtubule et au niveau neurodéveloppemental, elle permet aussi la formation de ces microtubules. Et dans la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe? On a en fait un détachement de ces protéines Tau. Ils vont se détacher des microtubules. Et ils vont s'agréger, ces protéines vont s'agréger les unes aux autres pour former ce qu'on appelle donc les dégénérescences neurofibrillaires. Et donc si elles se détachent des microtubules, les microtubules se désintègrent et donc on va avoir un dysfonctionnement neuronal et ensuite une mort neuronale. Donc ça c'est... Alors pourquoi on a un détachement de cette protéine Tau des microtubules? Ça, c'est dû à un phénomène, on parle d'hyperphosphorylation. Alors, c'est quoi une hyperphosphorylation? C'est des éléments qui vont être ajoutés sur cette protéine Tau à différents endroits. Donc, vous avez ici différents résidus qui vont être phosphorylés. Et cette phosphorylation va entraîner une déformation de la conformation de cette protéine Tau. Et c'est pour ça qu'elle se détache des microtubules. Et ensuite, donc, cette protéine Tau, ça s'agrège. Ensuite, pour tout ce qui est donc, de l'amyloïdopathie, les fonctions, donc, c'est en lien avec la protéine précurseur de l'amyloïde, donc APP en anglais, qui est une protéine transmembranaire qui est sur les membranes des cellules et notamment des neurones, dont les fonctions sont, il y a différentes fonctions. A priori, ça joue un rôle dans la formation des synapses. Et également, le professeur Blanc en a parlé pour l'alpha-synucléine, il y aurait également des rôles dans l'immunité importants. Et donc ça, c'est pour les fonctions physiologiques. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cette protéine APP, elle peut être coupée par des protéases. Alors les protéases, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces de ciseaux moléculaires qui vont venir la couper. Donc il y a différentes voies. Il y a une voie non amyloïdogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation de plaques amyloïdes. Si les ciseaux donc, coupent ici et ici, eh bien il n'y a pas de formation de plaques amyloïdes. Par contre, si on a la bêta-sécrétase qui coupe, puis la gamma-sécrétase, on a formation des fameux peptides amyloïdes bêta, les peptides A-bêta. Donc on voit que il y a différentes, alors on voit pas bien, ça a été coupé là, mais il y a différentes, il y a des peptides de longueur différents qui vont être produits et la bêta 1,42, pardon, la bêta 1,42 qui est ici en rouge, c'est un des peptides qui est le plus toxique. Alors pourquoi c'est plus toxique? C'est parce qu'en fait il va avoir tendance à s'agréger sous forme, on appelle de ça des oligomères. Et c'est ces molécules qui changent de conformation et qui s'agrègent et qui sont solubles, qui vont se propager, qui vont être neurotoxiques, donc toxiques pour les neurones. Et puis, au fur et à mesure des phénomènes d'agrégation, ils vont se transformer en fibrilles, puis en plaques amyloïdes que l'on voit ici en immunohistochimie. Donc, ça va faire partie également des biomarqueurs de la maladie. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut voir ces lésions du vivant du patient? Puisque donc là, en fait, les lésions qu'on voit, c'est en post-mortem. Donc, pour répondre à cette question, en fait, je vais reprendre les outils qu'a le clinicien pour poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et on va voir que c'est plus ou moins en lien avec ces lésions. Donc, à l'heure actuelle, le diagnostic, c'est un diagnostic probabiliste. Les outils du clinicien sont les tests neuropsychologiques. Donc, il y a par exemple, il y en a plusieurs, mais il y a par exemple le Mini Mental State Examination, le MMSE. Donc, il y a un test sur 30 points et qui va permettre non seulement d'évaluer le stade de la maladie, donc par exemple, troubles cognitifs légers, démence légère, démence modérée ou démence sévère. Et également, ça va permettre d'évaluer différentes fonctions cognitives. Donc ça permet de dire, par exemple, si le patient a un trouble du langage, le clinicien va pouvoir se dire ben, peut-être que l'air en lien avec le langage est touché et atteinte. Donc les tests neuropsychologiques vont indiquer les structures cérébrales qui sont, vont donner une indication fonctionnelle. Ça ne va pas dire s'il y a une neurodégénérescence, mais ça va donner une indication sur voilà, quelles fonctions sont touchées et également donc, le stade de la maladie. Il y a également donc, l'imagerie. Donc là, je ne suis pas exhaustif, hein, il y a d'autres, d'autres imageries, mais pour les principales, donc, il y a le PET amyloïde donc, qui va marquer les dépôts amyloïdes. L'IRM structural qui va être plus spécifique de l'atrophie cérébrale, donc de la neurodégénérescence. L'IRM fonctionnel qui va permettre de voir les connexions entre les réseaux de neurones. Et la scintigraphie, donc ce qu'on appelle le PET-FDG, pour la consommation en glucose. Et je vais vous montrer juste deux exemples donc sur l'IRM structural et le PET-FDG. Donc ici, vous avez un patient sain, hein, donc on ne voit pas de neurodégénérescence, et ici un patient Alzheimer, où on voit par exemple que ici on est au niveau, donc on est à une coupe où on voit l'hippocampe, les hippocampes qui sont des structures qui sont touchées dans la maladie d'Alzheimer, et on voit qu'on a des atrophies, et on voit également qu'on a une atrophie de l'ensemble du cerveau, puisqu'il y a eu une propagation de la maladie au niveau du cortex. Donc là, l'IRM structural va permettre de voir les neurodégénérescences. Et l'imagerie fonctionnelle, donc ici vous avez un sujet normal, donc vous voyez en fait les zones où on a une bonne perfusion cérébrale, où on a une consommation en glucose, hein, parce que vous savez que le cerveau est l'organe qui consomme le plus de glucose. Et dans la maladie d'Alzheimer, vous avez donc certaines zones où on a moins de consommation qui permettent aux cliniciens de déterminer quelles sont les structures cérébrales qui fonctionnent moins bien. Et enfin, donc, la ponction lombaire donc, qui permet l'étude des biomarqueurs dans le liquide cérébrospinal. Donc, ça, c'est plus mon domaine, puisque donc, j'effectue donc, le dosage de ces biomarqueurs au laboratoire de biochimie. Et donc, on va doser donc la bêta 42, qui va être donc en lien avec les dépôts amyloïdes, la protéine tau totale et la protéine tau phosphorylée. Donc, la protéine tau phosphorylée, c'est plus en lien avec la tauopathie. Et finalement, la protéine tau totale, puisque c'est une protéine qui est intracellulaire, hein, qui est dans le neurone, eh bien, si elle est augmentée, c'est parce qu'il y a une neurodégénérescence, hein, au moment de la mort des neurones. Ça va être libéré dans le liquide cérébrospinal, je vais y revenir. Et donc, c'est en lien avec les neurodégénérescences. Alors, qu'est-ce que le liquide cérébrospinal ou le liquide céphalo-rachidien ? On peut utiliser les deux termes. C'est un liquide clair et incolore dans lequel baigne le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière. Et donc c'est un liquide clair, on voit ici un prélèvement. Quel est son rôle, hein? Ça a d'abord une protection mécanique, c'est-à-dire que lorsqu'on se cogne la tête, ça va protéger le cerveau, ça va éviter que le cerveau cogne directement dans la boîte crânienne. Donc protection mécanique. Ça joue un rôle également dans la pression intracrânienne, bon ça je ne vais pas insister trop là-dessus. Et puis un rôle métabolique, c'est-à-dire qu'en fait, il va recevoir les déchets du cerveau, et notamment donc tout ce qui est peptide bêta, protéines tau et protéines tau phosphorylées. Donc c'est comme ça qu'il se retrouve dans le liquide cérébrospinal, qui va servir, en fait, il est changé 3-4 fois par jour, voilà, avec un volume qui varie de 60 à 150 millilitres selon les personnes. Et donc, on va avoir, voilà, donc, alors cette ponction lombaire, elle se fait entre la troisième et quatrième lombaire, tout simplement parce que au-dessus, on a la moelle épinière, et donc, voilà, c'est pour ça qu'on se fait, elle est effectuée donc à ce niveau-là. Ces ponctions lombaires, ce LCR, donc on le reçoit au laboratoire, et une fois par semaine, on effectue donc un dosage de ces biomarqueurs. avec un automate que vous voyez ici. Et donc, on va doser ces trois biomarqueurs à bêta 42, taux total et taux phosphorylé. Et dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, on va avoir une diminution d'abêta 42 par rapport à des sujets sains, dû au fait qu'on a un phénomène d'agrégation dans les plaques amyloïdes, une augmentation de taux du fait de la neurodégénérescence et une augmentation de phosphotaux à cause de la tautopathie. Et donc, pour conclure, pour répondre à la question, peut-on voir les lésions de la maladie d'Alzheimer? Alors, donc oui, de manière indirecte. Hein. Donc, les neurodégénérescences, ça peut être mis en évidence par les tests neuropsychologiques, ou en tout cas, mettre en évidence qu'il y a un dysfonctionnement de certaines structures cérébrales. L'IRM structural hein, va montrer l'atrophie. Le dosage de la protéine tau. Et puis, pour tout ce qui est biomarqueur, donc là, pour l'amyloïdopathie, il y a le dosage de la bêta 42 et le PET amyloïde, et pour l'atopathie, le dosage donc, de phosphotaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, docteur Ruzich.